sommes sur LFM 93.1. Nous sommes mardi matin et nous sommes dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, c'est Fred Gournay, auteur de Métaphysique du rock, qui va nous présenter nos invités. À vous, monsieur Gournay.
Merci Yves, je vous remercie encore de m'inviter dans votre émission et à rester la personne qui invite à son tour. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Yannick Hanel à l'occasion de la sortie du numéro 2 de la revue Aventure, avec un S, qu'il a fondé aux éditions Gallimard, et John Jefferson Selve, auteur de Méta Carpenter et de Notre Chute, et qui a participé à ce numéro avec une trentaine d'autres écrivains. Alors, le premier numéro portait sur le sexe, le rapport entre l'écriture et la sexualité. Celui-ci traite de nos passions. Bonjour Yannick Hanel.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur de livres comme Tiens ferme ta couronne, Jean Karski, Cercle, Le trésorier payeur, Solitude Caravage ou encore Bleu Bacon, pour lequel vous avez reçu de nombreux prix, Médicis, Interallié, Décembre, etc. Vous êtes également le fondateur de cette revue Aventure et depuis peu le directeur d'une collection du même nom chez Gallimard, c'est ça ? Alors le premier numéro a été un succès, on peut le dire, hein, ça s'est très bien vendu, ce qui ne va pas de soi pour une revue littéraire. Alors le sexe, ça fait vendre ?
Alors je pense que c'était un peu fait pour, disons. C'était un petit piège que j'avais élaboré, mais je ne crois pas que ce soit le sexe qui fasse vendre, parce qu'au fond, la société, c'est que ça, c'est du sexe matiné d'hypocrisie. Non, mon pari, c'est qu'il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de faire entendre quelque chose qui est la littérature. Voilà. Moi, je pense que la littérature, ce n'est pas une chose du passé, ce n'est pas un repli sur soi. C'est précisément ce qui va se développer de plus en plus comme étant le dernier lieu du combat, je le dis comme ça. La littérature au sens le plus plein du terme, c'est-à-dire celle qui est en chacun, il n'y a pas besoin de publier des livres, il n'y a pas besoin d'être dans l'industrie de la littérature, c'est qu'est-ce qu'on fait du langage qui est en nous, est-ce qu'on se laisse absorber dans ce mouvement planétaire de désappropriation, ou est-ce qu'on se défend, est-ce qu'on élabore nos désirs, nos passions, voilà, est-ce qu'on s'exprime tout simplement ?
Alors, il y avait, pour moi, quand j'avais reçu le numéro 1, passé l'excitation de la nouveauté et votre édito, j'avais été un peu déçu, parce qu'en fait, il y avait des auteurs qui étaient rentrés dans des pensifs, des lieux communs, qui avaient pas mal de concessions à l'époque et à la mode. Mm-hmm. Mais il y avait, donc c'était un peu un piège, comme on l'a évoqué l'autre soir à la lecture qui a eu lieu à l'atelier pour le lancement de la revue. Donc, grosso modo, vous avez fait une photographie voilà, à 100 écrivains. Vous avez envoyé la demande à 100 écrivains.
Oui, à peu près. Voilà. Oui, il y en a 80 qui ont répondu.
Voilà. Et écrivez-vous des scènes de sexe. Ouais. Et donc, 75-80 ont répondu. Mmh. Et donc, parmi tous ces auteurs, il y avait beaucoup de choses qui revenaient, en fait, qui étaient assez communes. On en a parlé la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission. Mais il y a quand même trois auteurs, pour moi, qui s'étaient vraiment nettement démarqués de l'ensemble. Mmh. Donc il y avait Christine Angot, qui avait fait un très bel acte d'écriture. Il y avait Geoffrine Donadieu aussi, qui avait écrit un texte très intense. Et puis il y avait John Jefferson Selve, qui est ici présent avec nous. Alors pour vous, Yannick Hanel, le rapport entre le sexe et l'écriture est essentiel, que celle-ci soit pornographique ou pas, c'est pas le problème.
Ah, vous y tenez, oui. On y revient. Bien sûr, moi, depuis le début, d'ailleurs on me reproche d'écrire trop de scènes de sexe, ça m'amuse beaucoup. Mm-hmm. Et comme si la société n'était pas elle-même pornographique. Et donc il s'agit, à travers justement les mots qu'on mobilise pour dire l'instant sexuel, pour dire cette chose insaisissable, mm-hmm. Ce chavirement, il s'agit d'ouvrir le cœur du langage. Je ne sais pas, je crois qu'à cette table, on est tous obsédés par la musique, le rock en particulier, on va en parler. Et il s'agit précisément de ça, en fait. De ce qui rend la vie désirable, du sexy, en fait, de la rythmique. Et je crois que le langage, c'est ça, peu importe ce qu'on raconte. La plupart des romans aujourd'hui sont décevants, comme vous dites. Les prises de parole sont décevantes parce qu'ils ne s'occupent que de sujets de société. Faudrait rappeler sans cesse que la littérature, c'est le contraire de la société. Et c'est-à-dire la manière dont on peut prendre le langage à rebours. Voilà, toutes les avant-gardes ont fait ça depuis un siècle et demi. Et très modestement, puisque c'est en train de se fermer de plus en plus, je pense que les affirmations et les trois réponses qui vous ont plu, moi, m'ont comblé également, sont des actes très, très modestes de sécession. Voilà, de dire, ben non, je tiens ferme une ligne qui est celle, effectivement, d'un langage qui ne se laisse pas avoir par le puritanisme, qui est presque plus localisable aujourd'hui. On ne sait plus ce qui est porno, ce qui est puritain. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on est souillé en permanence. On est souillé partout, par les discours politiques, par le discours médiatique. Et je pense que là, écrire un texte de 2 pages, de 3 pages, que ce soit sur une chanteuse qu'on aime ou une scène qu'on a vécue, où il y a du désir, ça crée comme une éclaircie qui peut se partager. Voilà, je sais pas vous, mais moi, j'écoute plus la radio, à part Aligre. c'est d'une obscénité chaque matin. On a envie de dire, mais vous respirez un peu. Qui est libre là-dedans? Donc voilà, c'est tout. C'est une proposition de liberté. Donc le sexe, évidemment. Faut pas se laisser intimider par les parce qu'il est en train de se passer sur le fait qu'il vaudrait mieux ne pas parler de sexe. Qu'on soit un homme ou une fille, hein, c'est pareil pour moi, vraiment pareil. Je sais bien que l'inégalité et ce sur quoi a été fondée la civilisation occidentale, la domination masculine notamment, j'en ai tout à fait conscience, mais il ne s'agit pas de ça, là, en l'occurrence. Il s'agit du partage des voix, en fait, d'écrire. Les plus beaux textes de ce dossier littérature et sexe, c'était des femmes, à part John Jefferson Self. C'était vraiment des femmes qui disent, voilà, dire.
Oui, je me suis permis d'insister parce qu'en fait, pour vous, Yannick Hanel, c'est aussi les deux ont un rapport à l'amour, l'écriture et la sexualité.
Bien sûr, mais voilà. Enfin, je sais
vous parlez d'un rapport amoureux entre le texte et le lecteur. Dans l'entretien à la fin de la revue avec Alice Diop, vous dites c'est poétique et c'est politique.
Mais pour moi, ça va avec. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui l'ouvre, quelqu'un qui ose prendre la parole, enfin même au micro là, comme ce matin, ou qui écrit, qui se mêle de tout ça, ne peut pas ne pas avoir une expertise à minima politique. Enfin, on vit une période d'abjection totale. Enfin, on va être recouvert par une obscurité extrémiste, enfin, et il me semble que même une petite revue de littérature, même un petit texte, même une conversation, en fait, relève du salutaire, ce qu'on peut appeler l'amour. Enfin, personne ne s'entend sur ce terme, évidemment, l'amour. Mais il s'agit de ça, évidemment. L'amour du langage aussi, inventer un nouvel amour du langage. Je crois que c'était Hermann Broch qui disait ça après avoir lu Joyce. Vous savez, il y avait des millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y avait Hermann Broch qui lisait Ulysse de Joyce et Finnegan's Wake, et qui en 1945 dit voilà, on va être sauvés. Et c'est pas seulement grâce aux Américains, c'est grâce à Joyce. Il a inventé un nouvel amour du langage, on en a pour 100 ans à comprendre ça.
Est-ce à dire que l'écriture, comme le sexe, donc, est une inscription en l'autre afin qu'il puisse continuer de promettre pour l'avenir? Est-ce que ça a à voir avec un engendrement par le verbe?
Ah, ça me plaît bien, oui. Puis ce sont l'engendrement de la formule, c'est des choses de Kristeva, de Tel Quel, de Solaire, des années 70. Moi, j'aime beaucoup.
Lacan aussi. Hein.
Lacan, exactement. Moi, j'aime la théorie. Je trouve que la théorie peut être sensuelle, elle a un charme, c'est elle qui nous nourrit. Et la poésie doit s'incorporer, la théorie, voilà. La poésie pense aussi. Mais elle pense comme un corps qui danse, ça se voit pas, la pensée. Et oui, ça s'engendre, évidemment. Il n'y a rien de mieux que de se passer un livre, que de se passer un disque, que de s'envoyer un texto en disant « t'as écouté ça, t'as entendu le dernier Cure, t'as entendu le dernier Nick Cave, t'as vu comme c'est extraordinaire ». C'est cette électricité irréductible que personne ne peut nous enlever qui fait l'histoire du monde. L'histoire du monde, c'est soi-disant les dictateurs, c'est soi-disant les prises de territoire, c'est soi-disant les conquêtes. Mais en réalité, il s'agit d'une histoire parallèle, enfin, une histoire secrète qui se passe dans l'amitié, l'amour, la transmission poétique. Voilà.
L'incarnation dans la chair, donc pour vous, c'est sacré et c'est secret? Les deux vont ensemble?
Alors sacré, si je prononce le mot, il va falloir une bibliothèque entière et 10 heures pour s'expliquer là-dessus. Mais oui, oui, moi je le revendique. Pas la religion, mais le sacré, oui. Mmh. Ben, le secret, c'est-à-dire que je crois que l'écriture, enfin, c'est un langage qui ne se donne pas de manière directe, c'est intransitif. C'est comme une conversation de baiser, comme disait La Fontaine. J'aime bien cette une conversation de baiser. Oui, entre deux amants, on parle bouche à bouche. Je crois que la littérature, ça parle très bas parce que ça dit des choses très fortes, en fait. Il n'y a pas besoin de parler fort. Donc le secret, oui, la voix murmurante.
Il y a un texte, pour en finir sur le sujet, un texte essentiel à la fin de la revue, c'est de la poésie pure, qui s'appelle « La machine à écrire » de Muriel Pic, qui est remarquable, et qui traite vraiment de ça, de cette inscription du désir et du rapport entre l'écriture et la sexualité et oui. l'amour. Oui. C'est risqué de mettre de la poésie maintenant dans une revue, ou même de vouloir éditer de la poésie, parce que c'est un peu un domaine qui a été dévasté par l'édition, qui a été abandonné. Donc ça, c'est un choix résolu de vouloir remettre de la poésie au centre de la littérature.
Oui. Moi, j'écris pas de poésie au sens de la poésie des poètes, au sens d'aller à la ligne. Mm-hmm. Enfin, je suis pas encore arrivé, vous voyez. Mais peut-être, qui sait. Mais plus sérieusement, effectivement, l'évacuation du poétique fait partie du programme, en fait. C'est le vrai puritanisme, il est là sur la poésie, sur la capacité qu'on a, nous, à nous exprimer poétiquement. Il ne s'agit pas de chanter en vers. Mais oui, quand on m'a proposé de faire une revue chez Gallimard, bon, c'était une chance, c'est miraculeux. Au cœur de la Banque centrale, comme disait Solers, je me suis dit, tiens, on va mettre de la poésie. Il n'y aura pas de hiérarchie de genre. On va parler de rock, de cinéma, on va parler de littérature pure. Et la poésie, effectivement, il n'y a pas tant de lieux. Et puis, la plupart des lieux dévolus à la poésie sont marginalisés. Et je me dis, tiens, dans cette revue, encore une fois, en pleine Banque centrale, au beau milieu, à chaque numéro, il y aura de la poésie. Pas que, hein, mais j'en reçois. Je suis très heureux. Il y a plein de jeunes poètes que je ne connais pas, d'ailleurs. Et puis, je reçois ça. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais quand ça me plaît, hop, c'est parti.
Ouais, le texte de Muriel Pic, il faut le dire en plus, c'est mis en page de façon adaptée, enfin appropriée, oui. parce qu'elle joue sur la mise en page, sur les retraits, sur les espaces.
Oui, 15 pages effectivement éclatées comme une possibilité, bien après Mallarmé, d'étoiler, de faire un ciel étoilé de textes. Mmh. Tout ça à partir d'une archive, d'un corps, comme ça, nu. Vous savez, comme dans les idéogrammes chinois, enfin dans la médecine taoïste, où dans l'acupuncture, on voit que chaque point du corps représente un moment du désir et de l'absolu. Et elle donne une transcription graphique et textuelle de ça. Et c'est un grand texte sur la joie.
Ouais. Oui, c'est très réussi en plus. Ouais. Il y a aussi l'éventail, après, le second texte. Alors, des passions, donc, il y en a beaucoup dans ce numéro 2 de la revue Aventure chez Gallimard. On y célèbre les créateurs de tout ordre. Hein. Geoffrey de Nadieu écrit sur Tennessee Williams, c'est la folie. Ouais. François Méronis écrit sur Kafka, c'est brillant, c'est lumineux. Hein. On en a parlé l'autre soir à la soirée de lancement à l'atelier, dans le 20e. Sébastien Berlindis nous parle de Pasolini, Gabriel Dufay nous parle de John Fosse, sur l'origine de la parole, de l'écriture, de son étrange rapport au silence. Des écrivains, donc des cinéastes, des musiciens, John sur Nick Cave, que l'entendra tout à l'heure, mais aussi des saints et des saintes. Alors, en plus de l'écrit de François Angelier sur Louis Massignon, il y a donc un Saint François d'Assise, et d'Olivier Cheval, et une Thérèse de Lisieux de Fanny Valentorf. Alors, comme si l'art et le sacré, comme on disait tout à l'heure, vous paraissaient désormais inséparables.
Alors, personnellement, oui. Mais je n'ai pas choisi, effectivement, l'objet des passions de mes amis. Enfin, je dis mes amis, il y en a que je ne connais pas, mais qui deviennent amis parce que j'aime leurs textes. Bon, l'amitié, elle est dans les œuvres, en fait. Et effectivement, j'étais très heureux de voir que plusieurs ont choisi de consacrer leur texte à un saint ou à une sainte. J'étais pas étonné. C'est pas que ce soit le retour au religieux, c'est pas du tout un pas en arrière. C'est au contraire une accentuation vers ce qu'il y a de plus absolu. Voilà. Pour moi, un saint, quelle que soit l'église à laquelle il est dévolu, et d'ailleurs les saints sont des gens qui ont résisté aux églises, sont des saints qui... Les saints n'ont jamais été incorporés au départ dans les églises. Bref, un saint ou une sainte, c'est quelqu'un qui déborde. C'est Lacan l'a raconté, enfin, la jouissance absolue, celle qui ne se mesure pas, c'est celle du saint, c'est exorbitant. Voilà. Alors le saint François d'Assise que j'aime, moi c'est un saint, je dirais, j'ose le mot aujourd'hui, hein, c'est un saint communiste. C'est un saint qui a plaidé pour une communauté sans intérêt. Pour une communauté qui ne se renfloue jamais, une communauté de la pure dépense. Et bon, François d'Assise, je préfère dire François d'Assise que Saint François d'Assise. François d'Assise est quelqu'un qui, à l'époque où la mise à sac du capitalisme et donc l'invention de la monnaie a commencé à nous prendre, bah, a réussi à vivre dans le pur usage fraternel. Voilà. Donc c'est une figure, moi, qui me plaît, qui me hante comme un modèle. Saint Thérèse de Lisieux, j'ai moins d'atomes crochus. On est déjà dans le catholicisme le plus fou. Parfois fanatique, mais aussi très...
Dans le dolorisme sacrificiel.
Voilà, c'est un versant qui me plaît moins, mais ce qu'en raconte Fanny Wallendorf est très beau, parce que c'est un peu la légende dorée. C'est une forme d'espérance, un peu... J'aime que les saintes et les saints soient cinglés, vous voyez ? Ils sont très cinglés. Et ça, c'est hors de prix, voilà, ça n'a pas de prix.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Nous sommes en présence de Yannick Hanel, le fondateur de la revue Aventure et écrivain, et de John Josephson Selve, qui est auteur de Méta Carpenter, Notre Chute, mais qui a aussi dirigé une revue littéraire et artistique qui s'appelait Possession immédiate. Alors, on va y venir justement. Autre artiste qui lie intimement l'art et le sacré, c'est Nick Cave, sur lequel a écrit John, et qui va nous lire un passage. C'est à vous, John.
Très bien. Eh bien, je vais vous lire le début. Et là, je réalise que j'ai fait une très longue phrase à l'écrit qui va être pas si simple à lire. Mais voilà, c'est de ma faute. Nous deux, les dieux sauvages, c'est le titre. J'ai écouté Nick Cave plus longtemps que le Christ a vécu. C'est ainsi et j'en ai conscience. Enfin, mes amis de toujours en ont conscience d'une façon qui, de temps à autre, agace leurs nerfs indulgents. Cette durée, qui prend le plus souvent, mais pas toujours, la forme de grandes plages de répétition d'un même album, 3 ans pour l'album chef-d'œuvre Algostin, et précisons-le, ces plages à perte d'écoute, par-delà le fait qu'elles m'extraient d'une pléthore de propositions musicales, me sustentent. Et ce contentement, parfois béat, paraît une anomalie pour beaucoup, ou alors au mieux une passion opiniâtre, sur laquelle ils se méprennent, parce que jamais n'est interrogée la source vive de ma monomanie, pour ne pas dire de mon idiotie au sens le plus faulknerien du terme. Alors que cette source se trouve être la substance spirituelle de cette félicité fauve qui m'escorte depuis mes 16 ans, comme une faveur rarissime quand j'écoute l'Australien, et qu'alors ces paroles se confondent avec les méandres de ma pauvre tête, et qu'enfin se soulève, non sans une certaine fureur, un paquet d'émotions, que jamais je n'arriverai à apprivoiser. Elle est depuis la première écoute l'allumage d'une rage heureuse. Cette sensation m'est essentielle. Le 6 mars 2024, Nick Cave a sorti un titre intitulé Wild God. Autant dire que je l'ai pris pour moi parce que le 6 mars 2024, j'ai eu 50 ans. Je veux dire que j'ai trouvé naturel que cette chanson me soit destinée. Tel un présent pour marquer le coup dur que sera toujours celui de constater une moitié de siècle. Nick Cave sait que la musique creuse le ciel, pour piquer à Baudelaire. Comme il sait que je vais vers la mort, et nous savons que cette simple impression est un coup de poignard effarant. L'espace infime et béant d'un instant qui se fait effroi. Tous nous chancelons métaphysiquement à ce moment-là. Tous nous tressaillons de panique. Alors nous fermons nos paupières, espérant que les lueurs tracassières du néant prennent cette couleur de soleil en fusion qui réchauffait nos rétines d'enfants, lorsque nous les ardions au bord de l'équilibre et pas loin du vide. Maintenant que le monde en nous se siphonne, il arrive que cette rage heureuse s'éloigne sans même que nous le réalisions. Je dis « nous », mais je ne le pense pas vraiment. Écoutez, Nick Cave m'a offert des façons d'être.
Merci beaucoup, John. Et le mieux, je pense, c'est qu'on écoute le morceau de Nick Cave qui s'appelle « Wild God ».
Upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, the smoke from
on the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, start. And the wild god says it starts with the heart, with the heart, with the heart, with the heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'était Wild God de Nick Cave, titre sorti de son dernier album. Alors il me semble que John Jefferson Self, qui vient de nous lire un extrait de son écrit pour Aventure 2, était présent au concert de Nick Cave, on appelle plus ça Bercy, on appelle ça la Accor Arena, en présence de Yannick Hanel et de Bob Dylan.
Merci, oui, c'est vrai.
C'est vrai?
Tous les
alors,
deux.
Alors c'était comment ce concert?
Tous les trois.
Tous les trois. Ah bah je t'en prie, Jefferson.
Moi, j'ai vu Nick Cave, je pense, une trentaine de fois sur scène. Donc, je pense que je connais pas mal. Pour le dire de façon un peu triviale, je crois que c'était plus qu'un grand cru. C'était, j'avais peur de l'aréna, une sorte de grande salle. Mais le fait est que ça va avec comment ce disque est composé. C'est-à-dire que depuis Goscinny, qui est pour moi l'un de ses chefs-d'œuvre, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, sépulcral, il entame un retour à la joie en reprenant le gospel, en reprenant aussi les bad seeds, c'est-à-dire une formation plus traditionnelle. Et ce qui est toujours surprenant quand on suit quelqu'un depuis toujours, on craint un peu sa déliquescence. Et comment dire, ce soir-là, Nick Cave nous a montré tout le contraire. Une présence presque renouvelée. C'est-à-dire, ce qui est beau chez Nick Cave, c'est qu'on alterne toujours de la rage à la peine. Moi, c'est ce qui depuis toujours me plaît chez lui. Et là, il l'a fait de façon presque de l'ordre du show. Ça, c'est vrai, il y a un côté qu'on peut reprocher. Certains reprochent à Nick Cave d'avoir ce côté prêcheur, de vitupérer un peu sur scène et d'avoir ses fans transis au premier rang. Mais par-dessus ça, ce qui transpire, c'est ce qui est incroyable, c'est ce que peu de gens arrivent à faire, c'est qu'il a une communion avec le public. Et là, j'ai vu à l'Arena, quand même une salle immense, presque monstrueuse, à quel point il arrivait à prendre tout le monde. Et effectivement, c'est de l'ordre du show. C'est aussi, je crois, chez lui, de l'ordre d'une métamorphose qui est assez compliquée et très belle à entendre, parce que suite à la mort de son enfant, donc Biffy Gostin, et il nous repropose une possibilité de ressaisir un peu de joie. Et Nick Cave n'est pas le dernier pour décrire un état du monde un peu compliqué, voire catastrophique. Mais dans chaque chanson, dans chaque façon dont il a d'appuyer les mots, de les répéter, de creuser, il a une force incroyable pour remettre et considérer que politiquement, aujourd'hui, la joie est la seule solution.
La joie comme arme de guerre.
Ouais, il faudrait que j'en prenne des leçons, peut-être. Mais,
Alors c'est d'autant plus, d'autant plus remarquable chez Nick Cave, c'est qu'en plus il a eu un gros passage à vide, on va dire dans les années 80-90, ça a très bien marché pour lui, il était adoré, il remplissait les salles, et les années 2000 ont été beaucoup plus compliquées, et il est redevenu un artiste un peu confidentiel, qui passait plus en radio, qui remplissait plus les grandes salles, et puis il y a eu deux drames dans sa vie, il a perdu deux fils quand même, successivement. Un fils donc, qui est mort, qui était sous LSD, qui est tombé d'une falaise, et un autre fils qui n'a pas vraiment connu, mais qui était quand même son fils. Et donc il est revenu avec des albums très forts, donc Gostin, et puis le dernier. Et pour aller dans votre sens, John, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il n'hésite pas à parler de ses concerts comme un des derniers moyens de communier et d'atteindre une transcendance. Il le dit, il pose le terme de transcendance.
Mais Fred, je pense qu'il y a une constellation qui se met en place qui est très intéressante, parce que dans les derniers entretiens de Nick Cave, il parle beaucoup d'intelligence artificielle et de fin du langage, ce qui au fond m'a toujours animé, que ce soit dans Possession immédiate, et Yannick le fait d'une façon encore plus puissante avec Aventure ou dans les livres, c'est de considérer, et lui il a l'âge pour le faire d'une certaine façon, mais c'est de considérer qu'on est dans un tournant. Au sens Klausmann du terme. Il y a quand même quelque chose qui se déroule là. Et bien sûr, c'est difficile d'en prendre compte, parce que c'est dissolu et qu'on y participe tous. Mais je trouve ça, comme Bob Dylan dans son temps, ce côté un peu prophétique. Mais comment le dire, la présence ou la prophétie chez un artiste est plutôt quelque chose qui m'intéresse et qui est peut-être essentiel. Contrairement à la présence... pour le dire autrement, et Nick Cave en parle pas mal, la présence des politiques, Macron, Trump, Milley, enfin...
oui, c'est ça, en fait.
Il n'y a que des pitres partout, et le seul moment où les pitres doivent être en scène, et de manière très belle, c'est dans l'art. Et Nick Cave joue de ça, mais pour parler du monde. Et je trouve ça précieux.
C'est les artistes sentent les choses en avant, c'est ça leur côté prophétique. Les philosophes le reconnaissent, hein, Platon, Kant, Hegel, les artistes pensent plus vite, plus fort. Et donc, c'est contrairement effectivement aux politiciens qui paraissent diriger le monde, mais finalement ne font qu'en l'accompagner ou en être les pantins. Et donc on rejoint un lien assez intéressant entre les génies, les prophètes, les saints, les écrivains, voilà. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Revenons à la revue Aventure fondée par Yannick Hanel chez Gallimard. Alors on a vu qu'il y avait des grands créateurs, des figures pieuses, pas mal de gens célèbres. Hein. Puis il y a un texte qui prend un peu le contre-pied de tout ça, qui prend un pied qui est à contre-temps de tous les autres, et qui est peut-être le plus beau, que vous avez mis en premier, donc à mon avis c'est pas par hasard. Il s'intitule « À l'alphabet », avec un S à la fin, et il est de Gaël Obiegli. Pour nous parler de ce texte.
Je peux en parler, hein. Je ne l'ai pas écrit, mais je suis heureux de l'éditer. Je l'ai même stimulé, si je puis dire, parce que ce qui me plaît dans l'acte de collecter des textes d'amis, de les éditer, en fait, c'est aussi d'être à la source, d'être avec eux, enfin, de prendre des nouvelles du texte qui se fait, d'accompagner, de boire des cafés, d'en parler. C'est le fruit de conversation, tout ça. Enfin, c'est ce dont on parle, la présence, qui est tout le contraire de la simulation politique. Et Gaël m'a tout de suite, Gaël Obiegli, qui écrit de très bons livres depuis des années, avec une exigence très ferme, m'a tout de suite dit que l'objet de son texte ne serait pas, contrairement à la plupart des autres, un artiste, ou voilà, que ce serait quelqu'un qui est son héros en ce moment. C'est un jeune homme à Montreuil qu'elle voyait plusieurs fois par jour, à qui elle apprenait le français. Elle s'est très vite rendue compte, je crois qu'il est afghan, un réfugié, elle s'est très vite rendue compte que c'était elle qui était en train d'apprendre quelque chose, mais c'était très indécis, elle le raconte très bien, puisque tout ça a été formulé dans une langue qu'elle ne comprenait pas bien. Et au fur et à mesure qu'elle lui apprenait le français, c'était pour qu'il puisse enfin lui dire quelque chose qu'il voulait lui dire depuis le début. C'est l'objet de ce texte absolument magnifique, parce que c'est le politique même qui s'ouvre grâce à la poésie. Il a un secret, ce garçon. Il a été expulsé de son pays. Il est venu à Montreuil, un peu comme quand Jefferson parlait, je dirais, de la rédemption qui est au cœur, au cœur profane de la vie de Nick Cave. Là, il y a une espèce de rédemption aussi. Et donc Gaël raconte ce protocole d'emploi du temps qui consiste à enseigner le français à des réfugiés et à les écouter, tout simplement. C'est un texte qui est absolument sans aucun sentimentalisme, sans aucun blabla humanisto, je ne sais quoi, qui raconte tout simplement le fait qu'on s'intéresse à quelqu'un. Ça, c'est une grande chose. Quelqu'un nous intéresse passionnément. On a envie de le voir tous les jours. C'est un ami, voilà. On ne connaît pas cette personne. Il y a quelque chose d'indiscernable qui vient de très loin. Et je vous encourage à lire ce texte, parce que au cœur de ce texte, je ne vais pas dévoiler, il y a tout le secret de la vie de ce jeune homme. Il y a toute sa vie suspendue là. Il est venu pour le dire à Gaël Obiegli.
Alors je ne vais pas dévoiler du tout le centre du texte, mais ce qui est très touchant, ce qui est bouleversant dans ce texte, c'est qu'il y a un double renversement par rapport à la revue dans son entier, c'est qu'elle parle de quelqu'un qui n'est absolument pas connu. Oui. C'est même un sans-papier. Donc c'est, on appelle ça en Inde, on appelle ça un intouchable. Enfin, on peut appeler ça par plein d'autres mots. Et le second renversement, là je crois que je ne dévoile rien, c'est qu'elle se découvre analphabète par rapport à lui. Quand tu lui montres un poème de Rumi en persan, elle se découvre analphabète. Donc on est toujours l'analphabète de quelqu'un.
Bah oui, je pense même que ça tombe bien, parce que je crois que la littérature est sans doute le lieu le mieux placé. Il serait temps de s'en souvenir à nouveau. Pour parler, Artaud disait ça, pour parler à la place des animaux, pour parler à la place de... Non pas à la place, mais pour témoigner pour ceux qui semblent, dont le langage ne semble pas déchiffrable a priori. Et là, c'est vraiment... Je suis heureux que ce texte vous parle. On est non seulement dans un renversement, mais dans un transfert d'intensité. Enfin. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas Rumi, mais elle va le comprendre mieux que ça, grâce à ce jeune homme. Et les deux vont accueillir la parole de l'autre. Bon, c'est une scène politique dans le plus sobre du quotidien.
Il y a aussi un deuxième texte pour Atonati, un deuxième texte qui parle de quelqu'un qui n'est pas connu et qui s'appelle L'inconnu d'Instagram.
Ah oui, c'est,
c'est d'Alexandra Dizzy. Mais il n'y a pas de vrai renversement parce qu'elle continue à idolâtrer cette figure-là. C'est une image, c'est une icône. Et puis quand elle la rencontre, c'est une épiphanie. Et puis voilà, ça s'arrête là. Mais on reste dans un rapport d'adoration. Là où le texte de Gaëlle est très fort, c'est qu'elle elle renverse toutes les figures qu'on peut avoir par rapport à ça, par rapport aux passions. Donc, toi, tu... pardon, vous avez lancé cette revue. Et vous avez fait un appel d'offres, enfin, en quelque sorte. On a dit, est-ce que vous voulez participer au numéro 2 de la revue? Il y a des textes qui t'ont surpris plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été au-delà de tes attentes? Comment ça s'est passé, la réception des textes?
Oui, bah, c'est-à-dire que je... c'est à chaque fois de tout petits paris. Mais pour la plupart, je connais suffisamment leurs livres où j'ai des espérances, enfin. Et puis, oui, surprise, c'est-à-dire que, comment dire ça, je suis comblé à chaque fois, parce que c'est un travail presque herméneutique, enfin, c'est-à-dire que je reçois le texte, je renvoie aussi une lettre, une appréciation, une lettre de reconnaissance, enfin. Et je cherche... à distinguer un texte ou un autre, je ne saurais pas dire. J'ai été très, très, très agréablement surpris, mais je m'en doutais, par un texte de quelqu'un que je connaissais à peine, parce que je ne l'avais pas lu, puisque c'est son premier texte, qui s'appelle Esther Teilhard. Et je l'avais rencontrée et elle m'avait parlé d'une mystérieuse Mireille Havé, donc une écrivaine dont des années 20-30, lesbienne, qui parlait de sexualité, on y revient, avec un appétit, sans aucune inhibition. Et je l'avais encouragé à écrire sur Mireille Havé, ne serait-ce que pour me la faire connaître. Et le texte est d'une insolence, d'une arrogance qui me plaît énormément. Je trouve qu'on se méprend souvent sur le sens de l'arrogance. C'est pas une manière de dominer l'autre, c'est une manière de splendide, souveraine, souvent, hein, d'ouvrir des portes. Voilà. Je pense que la littérature, je sais pas, si on lit Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet ou d'autres textes comme ça, ça a à voir avec le dévoilement abrupt.
Bon, la vertu de l'indécence, une fraction de vérité.
Voilà, et aussi une manière de dire au monde entier, allez vous faire foutre, mais aimez-moi en même temps. Cette contradiction me plaît. Et je trouve qu'il y a une forme de délicatesse dans cette violence énonciative. Et alors cette fille, cette jeune femme, pardon, je dis fille au grand sens du terme, j'ai l'impression qu'elle a ça. Donc c'est 4 pages, merveilleusement sonore, voilà. Donc oui, bah, à chaque fois, moi, vous rendez compte, vous recevez un texte. Vous êtes tout seul le soir, là, devant votre ordinateur, vous lisez ça, je ne sais pas, ce sont des moments... extraordinaire, oui. Alors quand ça me plaît pas, je le dis. Mais enfin, si on s'y prend bien, si on met notre désir assez haut face à quelqu'un à qui on demande un texte, ce quelqu'un va se décarcasser. C'est l'évidence. C'est comme ça que ça marche. Enfin,
donc ça, c'est intéressant, c'est votre travail d'éditeur.
Ouais.
Parce que vous êtes écrivain, principalement écrivain.
Ouais.
Et là, vous êtes éditeur, et l'autre soir, quand je vous ai rencontré, vous avez révélé que vous passiez plus de temps à lire qu'à écrire. Donc, ouais. C'est un peu intéressant, ce travail d'éditeur, ça consiste, donc, vous venez d'en parler très bien, donc accompagner, soutenir, mais aussi demander, exiger, c'est tout ça, être un éditeur?
Alors, exiger, c'est beaucoup dire, mais mettre quelqu'un face à sa propre exigence, oui. Alors, je ne dis pas que je suis un accoucheur socratique, mais... et puis, pour moi, je fais ça en amateur. Éditer, pour moi, ça va de soi, mais même le mot me fait un peu peur. Je ne voudrais pas être réduit à ça, mais passeur, disons. Mais il est vrai que c'est une chose que j'ai toujours faite. J'ai toujours adoré faire des revues. Quand j'étais jeune homme, je faisais des fanzines punk à Rennes. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, évidemment, Gallimard et les punks, ça a l'air à des kilomètres, mais on va réussir à punkéiser Gallimard un peu. Et bon, en tous les cas... Et ça, c'est très important. Bien sûr que je passe plus de temps à lire qu'à écrire. Mais écrire, on peut écrire 3 heures par jour, 4 heures. Moi, dans des périodes un peu shootées, sous médicaments pour finir un livre, je peux écrire 10 heures par jour, mais je suis un peu un monstre. Je ne tiens plus, là, à près de 60 ans. Mais sinon, on sait tous que la passion qu'on a, dévorante pour la littérature, elle peut s'accomplir dans l'écriture quelques heures par jour, mais le reste du temps, on cherche. C'est brouillon, on ouvre des livres, on lit. Et puis moi, j'ai passé beaucoup de mois, d'années dans ma vie, couché, un peu malade, un peu fiévreux, un peu tout, à lire des kilomètres de livres. Voilà, c'est quand même ça qui m'intéresse. Je m'intéresse plus aux autres qu'à moi, oui, c'est vrai.
Oui, il y a un retournement
J'ai un bon narcissisme aussi, hein, rassurez-vous. Mais
vous êtes passé d'un auteur.
Les autres sont en moi.
Vous êtes passé d'un auteur. Bah, vous avez toujours fait des revues, ça, on le sait. Oui, oui. Et moi, je vous ai découvert dans Ligne de risque, que vous avez fait avec François Béronis. Oui. Mais c'est vrai que, on avait parlé la dernière fois quand on s'est vu, vous auriez pu vous endormir sur vos lauriers, profiter de votre statut d'auteur un peu phare de Gallimard, qui prend la succession de Philippe Soler, c'est tout. Et là, vous remettez tout un peu en jeu. Et vous créez une revue, et le collectif, effectivement, semble très important, et vous passez beaucoup plus de temps à lire qu'à écrire, et à vous soucier plus de l'édition des autres que de vos propres livres, à mon avis.
Oui, 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 mais ça va, j'aime bien tenir ça. Ouais.
Alors, vous avez choisi, en pause musicale, je vous ai demandé quel morceau vous vouliez qu'on écoute, et vous avez choisi Rodolphe Burger, ça s'appelle Le Bois Lacté, on va l'écouter maintenant, après vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi.
Seul peut entendre et voir derrière les yeux des ormeurs les mouvements, les pays et les labyrinthes et les couleurs et les arcs-en-ciel et les airs de chansons et les désirs. Et les envols et les chutes, les mers immenses de leurs songes. Écoute. D'où tu es, tu peux entendre leurs rêves. Seul peut les entendre et les voir, les airs de chansons, les désirs, les envols, les chutes, les mers immenses de leurs rêves. Je
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous êtes toujours dans l'émission de Yves Tanré, La vie est un roman, en présence de Yannick Hanel, fondateur de la revue Aventure chez Gallimard, écrivain, et de John Jefferson Selve, auteur de, entre autres de Meta Carpenter et de Notre Chute. Yannick Hanel, vous avez choisi ce morceau en pause musicale. Pourquoi ce morceau en particulier ?
Ah bah c'est un album de Rodolphe Burgil qui s'appelle Avalanche, que je trouve tout simplement magnifique. J'écoute tous les jours. Il y a, on l'a entendu, il y a une mélopée qui s'infiltre par la grâce comme ça, des strates atmosphériques derrière les yeux des dormeurs, comme il dit, pour aller distinguer des labyrinthes, des éclats, des envols, des chutes, comme dirait John Jefferson. Et je trouve que c'est un poète, voilà. Et là, on sent à quel point poésie, musique, enfin tout ça est la même chose, quoi.
C'est d'autant plus étonnant de la part de Rodolphe Burgil, moi qui le suis depuis très longtemps. J'ai écouté Catonoma, j'avais 16 ans, donc j'ai vu les tout premiers concerts de Catonoma en France, à Paris. C'est que longtemps, il n'écrivait pas, et l'écriture dépendait d'autres personnes d'ailleurs qui étaient assez douées, c'est Olivier Cadio, écrivain reconnu, Pierre Alféri, donc poète, le fils de Derrida, qui écrivait aussi pour Catonoma et puis après pour lui, et puis il a eu d'autres gens qui ont écrit. Et là, depuis quel temps, il s'est mis à signer lui-même ses propres textes. Et là, sur le dernier album, les textes les plus beaux, à mon avis, sont de lui. Alors, on parle de notre chute. La chute, il y a l'inattendu. L'inattendu, en fait. Je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui vous avait surpris dans les textes que vous avez reçus. La part d'inattendu dans la création, dans l'art. Moi, il y a quelque chose de totalement inattendu qui m'est tombé dessus, pour le coup. Il s'appelle Notre chute, le dernier livre de John Jefferson Selve. Alors d'abord, est-ce que John, vous pouvez nous lire un extrait de ce livre ?
Bien sûr. Alors, après le début de Nick Cave, je vais faire la fin de notre chute. Mes pensées réduisent la chair à l'os. C'est ma manière d'affronter notre néant. C'est ma manière de ne pas mourir sur le coup. D'éviter le coup de volant que l'on donnera alors que l'on ne veut pas. La mort subite. Le changement de médicamentation qui fait qu'un ami saute par la fenêtre. C'est la nuque brisée d'un jeune homme voulant se sucer. C'est le sperme vivant sur le visage mort. Le cou du lapin. C'est pleurer un matin de voir deux inconnus céder. Savoir à chaque instant que la vie s'arrête net pour des gens qui n'en sauront rien. C'est être heureux pour les autres. Comme ça. C'est prendre systématiquement le parti du plus faible. C'est pouvoir entrer dans une courbe à 275 km/h avec une moto que l'on ne connaît pas. Décortiquer ces centaines de mètres par seconde que fut ma chute dans l'avion. Y poser mon souffle. Caresser le ralenti du monde et apprécier l'enfance devant soi. C'est Martin Eden qui coule, Nick Cave qui chante. C'est une femme, les doigts luisants d'une inconcevable errance où brillent toutes nos acuités et sa solitude. C'est être sûr depuis la nuit du monde que rien ne nous appartient, ni les pensées, ni les corps, moins encore les territoires ou le goût d'un cul. Là doit être notre attention. La littérature est sale parce qu'elle s'enfonce un peu plus loin que le monde. Elle demande à s'engager un peu plus loin que le monde. Elle est un sacrifice d'où l'on ressort vivant, une solitude, à côté de l'endroit, dans l'espace et dans le temps où tu pensais te trouver. Je te fatigue, c'est normal. Je devine ton malaise, nous nous ressemblons. Tu as des envies de vitesse, de combat, d'un tableau de bord qui s'affole. De la description d'un combat, tu rêves de ça. Un combat à main nue entre un homme et un chien à l'intérieur d'une voiture, comme je l'ai lu dans un livre. Sans toi, je ne suis rien d'autre qu'une stupeur. Alors révèle-toi et relève-moi avant que tout ne s'écroule. Je te dis tout parce que je t'aime. La littérature est notre cicatrice. Hérésiarque, elle peut tout. Tu l'entends, elle peut tout. Parce qu'elle est la musique enchanteresse derrière nos enfers. Puisqu'elle est, dans la possible intensité de nos vies, notre chute.
Merci John de cette lecture de Notre chute. Votre dernier livre paru chez Zone Critique, un livre court, intense, radical, qui se fout de la littérature, qui se moque de l'édition, qui précise hein, « La littérature est une guerre comme les autres ». Ou encore « Il ne suffit pas d'acheter des livres pour sauver la littérature et son langage de la chute ». Yannick, j'imagine que vous l'avez lu, ce livre.
Bien sûr, je l'ai lu et aimé et offert. Ben, c'est un, d'une part, ça me plaît parce que c'est un petit récit d'avion. Et je partage avec John Jefferson la phobie de l'avion. On en parle depuis 20 ans. Et de nos petits protocoles médicamenteux ou alcoolisés pour affronter ce moment dépressif au-dessus de tout. Et avec un humour terrible, cinglant, enfin, c'est un texte au scalpel. Il prend prétexte de cette traversée, comme ça, pour faire une expertise au couteau sur ce qu'il en est de nos aspirations et de ce que la société se raconte sur la culture, avec un grand K. Et bon, voilà, j'aime quand il dit la littérature est sale parce qu'elle ose ouvrir l'abîme. Enfin, tu le dis mieux que ça, mais c'est aussi pour ça qu'elle est tellement délicate. Parce qu'elle a l'audace de ne pas se prétendre propre. Et bah, c'est un grand livre de 30 pages. Enfin, tout le monde devrait se ruer là-dessus. Ça ne coûte rien. Vous pouvez même le voler. Il y a des gens qui font, j'espère, encore ça. Non
Alors, moi, j'ai connu des auteurs qui étaient très flattés et honorés quand les libraires leur apprenaient que leur livre a été volé.
Ben oui,
ils s'en plaignaient.
La vraie médaille.
Voilà, c'était la vraie reconnaissance. Une pensée pour Toulouse la Rose, qui se faisait voler ses livres en Gare Moderne, et quand il l'apprenait, il était très fier. Son libraire était très fâché.
Parallèle.
Parallèle, c'est vrai.
C'est pour ça que c'était moche.
Ah oui, là, c'est dommage, c'est bête. Là, il faudrait plutôt les aider, Parallèle.
Donc, pour revenir au livre fulgurant de John, Jefferson Selve, « Laissez-moi la rédemption et la transgression ». L'un ne va pas sans l'autre, John ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui d'employer le mot de transgression, c'est un peu comme les mots esthétiques. On sait qu'il y a des périodes où des mots ne collent plus ou ne vont plus. Et sauf qu'en même temps, si on veut sortir la sensation de la confusion ou du ressentiment, ou parfois de la morale haineuse que notre époque peut avoir pour de bonnes raisons, je pense que, en tout cas moi pour écrire, j'ai besoin de coller et d'apposer les deux. Au même moment, mais ça après ce sont des affaires de goût. Moi je m'intéresse à essayer d'écrire ou bien de parler d'une littérature qui fonctionne par le principe de la sensation, parce que je pense qu'elle éclaircit au contraire du langage contemporain plus technique ou plus pauvre. On est dans une époque par exemple qui a plus de mal avec les figures de style ou j'entends souvent les journalistes dire ce livre est bien parce qu'il est simple. Bon, c'est pas du tout mon credo. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce sont aussi des souvenirs de lecture ou de gens qui m'ont plu. Et je crois que ma manière d'être ne peut passer que par là pour entendre quelque chose et peut-être éclaircir une sorte de confusion que nous traversons tous. Donc,
c'est un livre musical aussi, c'est-à-dire assez rock, rap, hip-hop, techno.
Oui.
Il y a quelque chose de très immédiat. D'abord, le format est court. Mm. Ça, c'est le parti pris de Zone Critique, qui est assez malin d'ailleurs, il faut le reconnaître. Ils ont dit, bon, bah, finalement, les gens n'ont plus beaucoup d'attention. Ils lisent sur téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi notre riposte ? Est-ce qu'on reste sur nos formats 500, 600 pages, nos gros pavés, pour essayer de barrer cette modernité qui nous dépasse ? Ou est-ce qu'on joue le jeu ? Donc, Zone Critique joue le jeu. Et toi, donc, vous, John,
oui.
C'est un format très court, très dense. Non, mais rentre dedans,
oui.
Voilà.
Oui, Fred, quand Victor Dumiau, donc le directeur de la collection, m'a proposé de faire ce petit texte, il m'a parlé de dissidence. Autant dire que c'est peut-être ce qui m'anime un peu quand j'écris. Je détesterais, je fais très attention de ne pas être dans une sorte de vertu contemporaine. Même si je me sens très touché par tout ce qui peut être de l'ordre des injustices, puisque j'en parle beaucoup. Mais toutefois, là, la chute dans l'avion, c'était pour moi aussi, par-delà l'allégorie d'un monde qui tombe, c'était aussi la description d'un combat, pour reprendre à Kafka. C'est-à-dire que ça, c'est à ce moment ultime, c'est l'idée de se battre jusqu'au bout. Et donc, effectivement, la manière qui s'est imposée à moi, c'est une sorte de prosodie qui soit beaucoup plus punchline, nerveuse. C'est ma manière d'être aussi, je pense. Et pour reprendre encore une fois Annie Kev sur les concerts et sa manière d'être, qui est toujours une source d'inspiration, j'avais écrit Meta Carpenter en écoutant Ghostin, c'est que il y a chez Annie Kev aussi la description d'un combat. Donc nous l'avons dit plus tôt, un combat pour la joie, trouver les brèches.
Est-ce que ça serait un combat spirituel, comme dit Rimbaud, une bataille qui fait plus de morts ?
Alors, chez moi, combat spirituel, ça va être un peu compliqué, mais je veux dire, néanmoins, bon, on est tous en point de vertige. Et moi, les livres qui m'intéressent et les productions contemporaines qui m'intéressent, que ce soit dans tous les arts, elles doivent forcément avoir à un moment une sorte de naïveté enfantine liée à l'existence ou au tremblé de l'existence. Toutes ces sensations qu'on a pu ressentir môme. Là, l'écrivain qui tombe, je pense qu'effectivement, il est au scalpel et à la fulsateuse, mais c'est simplement dans l'idée de retrouver un état clair, un état édénique où la colère première est là, mais la colère première dans la joie, c'est-à-dire pour qu'on avance et parce qu'on croit en quelque chose, tout simplement.
Merci beaucoup, John Jefferson Selve. Merci beaucoup Yannick Hanel d'être venu nous parler donc de votre revue Aventure 2, numéro 2, dans lequel John écrit. C'est un très bon numéro, avec beaucoup de très bons textes et une poésie bouleversante à la fin, vraiment, qui vaut la peine d'être lue. Donc ruez-vous sur Aventure 2. C'est chez Gallimard, c'est distribué partout, hein, on le trouve assez facilement. Merci beaucoup Yves de nous avoir reçus et à très bientôt.
Merci.
À la semaine prochaine, merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.